Moi, c'est ma grand-mère qui m'a raconté ça.
Elle me contait des contes, elle dit, petit gars, ça s'est passé dans le temps où il y avait encore du temps. Ça, ça fait longtemps, ça. Dans le temps où il y avait encore du temps. Dans le temps, chaque journée durant une éternité, le bonhomme 7 heures passait à sa fin de la veillée vers 11h30 minuit. Il y avait le temps.
Ben, dans ce temps-là, il y avait dans mon village un forgeron qui disait, il faut battre le fer quand il est
chaud.
Hein, puis il était tout le temps chaud, le bonhomme, une journée longue, premier sur jour, comment ça? Ce forgeron-là, mané, s'est implanté la girouette sur la chapelle d'une magnifique créature, Madame Chose, qu'elle s'appelait. Par alliance, c'est devenu Madame Riopelle, la femme du forgeron. Ils se sont présentés devant l'hôtel. Le curé et les hommes mariés bord en bord, ses quatre faces. C'était de même dans le temps. Seulement, quand tu disais « oui, je le vieux », ça voulait dire que tu te mettais en famille. Pas de mariage pour rien, pour le fun. Le monde se mariait pour se mettre en famille. Puis qui disait « famille », disait « engrossement et déboulage ». Fait qu'ils reviennent à la maison, bonhomme Riopelle et sa femme, puis là, ben, ils se mettent à essayer ce qui était pas possible d'essayer. D'un jour à l'autre, il avait beau surveiller l'affaire, il y a rien qu'en grossant. Madame Riopelle restait vide. Être curé à tout bout de chaîne, n'avoir dans l'entreboillement de la porte ce qui se passait, ça la bain, tire, pousse, prend, donne, il y a rien qu'ils ont pas essayé. Incantation à la Marie de l'incarnivore. Des chapelas, dans l'eau bénite. Dans le fond de la boîte à bois jusqu'au Kamasutra, il n'y a pas une graine qui arrivait à germer dans cette terre-là. Le curé disait, j'ai jamais vu un postérieur nuire autant à la postérité. Ben, un moment donné, le forgeron, tatané d'avoir la face de son confesseur étampé d'un drap du lit, il avait l'impression de coucher dans le Saint-Suaire de Turin. Il s'est dit, on va procréer autrement. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait, le forgeron? Il s'est en allé dans le fond du rang. Pas loin du lac à Sansu. Là, il y avait la sorcière du village qui restait là. La sorcière du village, qui avait toujours le doigt dans le nez. Pour voir d'avenir le monde. Elle disait qu'elle cherchait des ingrédients pour sa potion magique, vous comprenez? Puis elle embrassait des grosses batches. Il était loin de la sorcière, qui restait d'une petite cabane ridée. Et puis, il a parlé d'un plan. On sait pas trop, en fait. Il a lancé une invitation. Parce que ce soir-là, il y a eu un orage. Tonnerre qui bardasse, puis la pluie battante. Le forgeron s'est étiré en overtime dans sa boutique. Il a barré tous les fenêtres qu'on voyait rien en dedans. Il y a pas personne qui a été invité là, pas même sa femme. Mais vers les minuit, on avait arrivé la capine sans tête, les pieds d'un flaque d'eau pis le doigt dans le nez, la sorcière du village. Qui a pu rentrer, elle, dans la boutique. On a vu sortir le forgeron par derrière qui est allé dans sa chaîne. Il est allé chercher un lingot d'or. Toujours un lingot d'or qui traîne d'une chaîne qui te passe. Jamais vous passez d'un compte. Arrêtez d'une chaîne. Un lingot d'or, il est revenu avec ça dans la boutique de forge, puis ce qu'on suppose, là, je peux pas vous dire que c'est bien vrai, ce bout-là, là, on a fait des hypothèses par rapport au bruit qu'on a entendu, parce que tout ce qui reste dans le souvenir, là, délavé par l'orage, c'est des bruits. On a entendu le forgeron frapper puis marteler ce lingot d'or-là, on l'entendait. Puis la sorcière, pendant ce temps-là, elle a déballé son chapelet de formule magique. Ah oui, encore, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Ben, ça a marché. Ça a l'air que le forgeron a forgé dans ce lingot-là une petite poupée. Une petite poupée en or! La sorcière a soufflé dans les narines de cette poupée-là, puis cette poupée-là aura pris vie. Au petit matin, le coq a fait tricot. Le forgeron est sorti de même avec des crottes de bonheur dans les yeux du matin. Avec dans les bras un petit poupon. C'est à ça l'enchantement. L'enfantement. Un petit bébé doré comme un soleil, des yeux de lune à manche après ça, des petites étoiles par là-dedans. Tellement belle qu'on l'a baptisée Lurette. La belle Lurette. Vous avez tout entendu parler de la belle Lurette un jour ou l'autre. On dit, il y a belle Lurette, cette fille-là. A grandi à Saint-Élie-de-Carton dans mon village. Elle poussait, puis on aurait dit qu'elle avait comme la beauté imprégnée dans le spring d'ADN. Parce qu'elle prenait de la valeur comme un filon d'or sur un marché boursier qui plante pas. Elle prenait de la valeur, puis de la beauté en vieillissant. C'est devenu la coqueluche du canton. Tellement belle, son père avait pris soin d'y graver dans la paume de la main une petite spirale d'amour et d'avenir. Les lignes de la main que tu mettais une aiguille de gramophone là-dedans, puis ça te faisait la plus belle des petites mélodies. La belle Lurette a grandi dans mon village. Il l'arrosait tous les jours, elle poussait. Puis elle est arrivée à l'âge où c'est devenu comme des petits fruits mûrs.
tous les petits genres du village auraient croqué là-dedans, belle dent. Ah, mais non. La belle lurette a gardé son cœur pour un gars. Puis continue à grandir, puis grandir. La belle lurette était assise un bonjour sur le bord de la rivière, juste en bas de la côte du presbytère. À se tremper pieds dans le courant, à se faire têter les orteils par les petits étors. Puis est arrivé son meilleur ami. La belle lurette, elle a grandi de même sans aller à l'école, puis rien. Elle disait, papa, moi, les hautes études, ça me donne le vertige. Fait qu'il a dit, c'est correct. Tu vas agir à ton gré, tu vas agir à ton gué. Elle s'est ramassée sur le bord de la rivière. Passa ces journées-là, puis elle a appris le savoir des écurieux qui courroient, puis le savoir des petits tourbillons sur la rivière, puis des petits tourbillons qui deviennent de la glace à l'automne. Elle a appris peut-être le vrai savoir, puis peut-être une poésie qu'on oublie trop souvent. Fait que la belle lurette est assise sur le bord de la rivière, fait encore chaud, elle vient de faire son lavage dans le courant. Quand est arrivé Dièse, Dièse, c'est le gars qu'on appelait de même parce qu'il parlait toujours un demi-ton plus haut que tout le monde. Un grand parleur, un grand parleur. La langue bien pendue, on aurait cru qu'il avait 100 pieds de gorge après ce gars-là. Ce gars-là comptait des contes, des histoires à n'en plus finir. Il pouvait vous tenir en haleine des nuits de temps. Fait que Dièse est venu s'asseoir à côté de Lurette. Il s'est retroussé ses pantalons pour faire comme elle, puis se planter ça dans le courant, lui tout. Puis Lurette, elle a dit, « Dièse, conte-moi un conte. » « Ah, non, non, tu sais toutes mes histoires, toi. »« Conte-moi-en un, ton meilleur. » Ben, dit, écoute, je vais te compter mon meilleur conte, mais moi, te le compter un qu'une fois. Elle dit, ton meilleur, elle t'a déjà piqué dans l'émerveillement. Mon meilleur. Puis elle est partie de même, elle dit, c'était une fois, puis toute l'affaire, c'était une fois un papillon. Un papillon pareil à Twizzle. Puis Dièse, quand il faisait des contes, lui, il jouait à son conte. C'était toujours à l'entour de sa bouche que ça se passait. Puis quand il racontait des histoires de papillon, il battait des lèvres. On aurait cru que c'était un petit ventilateur vivant, une petite bébite. Il racontait cette histoire-là d'un papillon pareil à tous les autres, à ses millions de frères pis de sœurs. Un papillon multicouleur. Mais si on le regardait de plus proche, on se rendait compte que ce papillon-là, il avait une couleur, une tache que les autres avaient pas. Une couleur sans nom, que même ma grand-mère n'était pas capable de me nommer avec ses dentiers. Ce papillon-là vola à gauche puis à droite, puis au lieu de suivre les autres, il a laissé l'instinct grégaire tomber dans le champ, puis il est parti à la découverte du monde. Il a volé à gauche, à droite, à l'étalage. Il a volé partout, puis il a vu des affaires que ben des bébites ne verront jamais. Il est passé par les vallées et les montagnes, par les villages, par les villes. Il a tout vu. Mais tout le monde le sait, c'est fragile, des papillons. Hein? On peut même pas lui toucher tellement c'est fragile. Puis Dièse, il jouait de ses ailes un peu. Ben lui, il savait, ce papillon-là, qu'au premier gel, il planterait. Il savait que la première bordée de neige, ça en sera fini de lui. Les papillons, c'est bien connu, ça passe pas à travers l'hiver. Premier petit coup de frette, poum, il tombe à terre. Fait que compte son histoire, puis compte son histoire, qu'il en est arrivé un moment où ce papillon-là a tendu l'oreille, puis a entendu le chant d'une cigale, une grande complainte, qu'on a repris plus tard, qui disait quelque chose comme, ah, c'est les fleurs qu'on a coupées, s'en vient l'hiver, s'en va le beau temps. C'est pour mamie que j'aime tant. Mais il y a une fleur qui ne meurt pas, s'en va l'hiver, s'en vient le beau temps. C'est pour mamie que j'aime tant. Le papillon a entendu ça, puis tout de suite, il s'est dit, c'est une fleur qui creuve pas, ça me la prend. C'est mon seul moyen de survivre, de passer à travers l'hiver. Il s'est mis à chercher la fleur qui mourra pas, qui fanera pas les frettes arrivées. Fait que, ah ouais, butine, de fleur en fleur. Par les airs, à gauche, à droite, à l'étalage, il volait partout le ventilateur. Il a vu comme ça les lilas, déjà rendus dans l'au-delà. Les trèfles, flétris. Narcisse, noyé. Les pissenlits qui se mangeaient à eux-mêmes par la racine. Il a commencé par d'espoir. Même que les jours d'automne avançaient, puis bien vite, toutes les feuilles des arbres s'étaient ramassées à terre. On aurait dit un tapis de papillons multicouleurs. Dernier pas que fait, ça a été pour se rendre sur une piquette de clôture. Il avait perdu espoir. Fatalité, il attend. Il commence à s'engourdir. Ce journée-là, la météo des paysans annonçait la première neige. Il sentait déjà ses ailes s'engourdir un peu, il se sentait figé. Puis d'un coup, il voit-tu pas loin de la piquette par là? Une fleur qu'il avait jamais vue. Une fleur immortelle. Une fleur immortelle qui avait l'air de vouloir passer l'hiver debout sur sa grande tige. Il s'est dit un dernier swing d'espoir. Il s'est ravigoté l'espérance. Puis il a sauté en bas de la piquette. Pour se rendre comme ça, à petit bond, jusqu'au côté de la fleur. À ce moment-là, Diaz, il avait le menton posé sur l'épaule de la belle Lurette. Puis il disait là, il s'est élancé. Il a donné 3 coups d'helme. Puis il a embrassé la belle Lurette. La belle Lurette, elle t'a fait ça jusqu'à temps qu'elle s'en rende compte, voyons donc. Elle l'a repoussé, hey, wow, pas un mot. Puis Diaz, il se dit, maudit. S'il fallait que pour une histoire de rien, j'ai brisé un amour de toutes, moi, les histoires de grand gueule. Puis il attend le silence, on entend un avec les petits flacotis de la rivière. Puis il a dit, mais finalement, Diaz, y a-tu passé l'hiver, le papillon? Ben, il dit, écoute, au moment où le papillon s'est posé sur le cœur de la fleur immortelle, la météo des paysans avait dit vrai, il est tombé. Une petite neige collante. La première des neiges qui s'est posée comme ça, qui a recouvert toutes les ailes du papillon. Cette fleur blanche-là, avec 2 grandes ailes, les paysans ont revu ça en venant de la journée de travaux au champ, puis ils se sont dit, c'est une nouvelle affaire qu'on connaissait pas. Eh bien, ils ont pris la fleur de même, ils l'ont gardée dans un bocal d'eau, comme une nouvelle variété. Cette fleur-là, on l'a appelée le lys. C'est une fleur qui meurt pas. C'est un fleuron qui meurt jamais, puis qui passe à travers tous les hivers. Thank you.